Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie à la technique Virginie, présente comme souvent le samedi matin. Je suppose qu'il doit y avoir peut-être Patrice à la... Oui, me dit-on, Patrice est au standard. Patrice qui est revenu de vacances, qui est fidèle au poste, et que nous retrouvons avec bonheur dans ce libre journal de géopolitique profonde. Il répondra à vos questions, remarques, observations au standard téléphonique. Vous pouvez, vous savez, chers auditeurs, aussi passer, vous êtes des habitués, par courriel électronique, et je recevrai bien sûr l'ensemble de votre correspondance, et je pourrai échanger avec nos invités du jour, et répondre à vos remarques, questions et observations. Donc voilà pour déjà planter le décor. Nous aurons trois invités aujourd'hui dans ce libre journal de Géopolitique Profonde. Nous allons commencer, et c'est le plus important, avec Adnan Azzam. Adnan Azzam, c'est un écrivain franco-syrien, qui actuellement est à Téhéran. Donc nous l'aurons en direct, j'ai envie de dire, pas sous les bombes, mais pas loin. Adnan Azzam, donc, que je salue d'ailleurs, s'il m'entend. Bonjour Adnan.
Bonjour, cher Nicolas, à toi, à toute ton équipe de travail, à tous les gens qui écoutent et qui regardent.
Alors, je te vois sous un arbre, d'ailleurs, tu es à l'ombre.
Je me suis arrêté sur la route, cher Nicolas.
Très bien.
Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour Courtoisie, Radio Courtoisie et pour Nicolas Stocker?
Très bien, formidable Adnan. On te libérera au bout d'une grosse trentaine de minutes. Je sais que tu es énormément pris, tu n'as que quelques jours. J'ai vu qu'hier tu étais au niveau du détroit d'Ormuz. Tu es itinérant à Téhéran. On rappelle que tu as sillonné à une époque d'ailleurs l'Iran, époque où tu étais à cheval, je crois d'ailleurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Exactement, en 2019, j'ai traversé l'Iran de sud au nord pendant 60 jours. Et donc là, c'est la troisième fois que je viens dans ce pays que j'aime beaucoup. Donc voilà, on est arrivé ici en Iran dimanche dernier. Et puis, on est parti de ciel de France vers l'est à 5000 km. À 5000 km, on arrive à Erivan, la capitale de l'Arménie, puis d'Erivan. On reprend notre avion pour arriver ici à Téhéran. Donc voilà, si tu veux, on est carrément à l'est de la France, à 6000 km probablement jusqu'à Téhéran. Et c'est là la visite a commencé et je suis absolument à ta disposition. Tu me poses les questions et moi je réponds avec l'honnêteté la plus absolue.
Très bien, mais écoute, on revient vers toi dans 30 secondes. Le temps de dire que nous aurons aussi pour un hommage à Christine Coton, Vincent Pavant dans cette émission, un petit peu plus tard, lorsque nous aurons fini d'échanger avec Adnan Azzam. Et puis, est aussi dans le studio, et nous l'aurons à partir de autour de 10h, vous l'avez déjà entendu il y a 3 semaines de cela. C'est une humoriste, en tous les cas, quelqu'un qui nous a beaucoup fait rire sur un peu ses mazarinades concernant Emmanuel Macron il y a de cela 3 semaines et qui nous revient, Elisabeth Nonaccord, et qui est dans le studio. Bonjour ma chère Elisabeth.
Bonjour vous tous, bonjour les auditeurs.
Vous avez le droit de mettre votre casque si D'accord. vous voulez, non, mais vous n'êtes pas... Parce que sinon vous n'entendrez pas ou difficilement les personnes que nous avons dans le studio virtuel. Voilà. Donc, voilà les 3 invités, chers auditeurs, dans cette émission. Nous sommes, je le rappelle, le 6-6-2026, en espérant que ces 6 qui redoublent, qui triplent, ne seront pas un mauvais présage, surtout en ce jour de nuit blanche. Et oui, Homo Festivus est éreinté, il fait la fête, et il ne lui reste plus que le blasphème, que le sacrilège. Et c'est pour ça qu'il investit les églises parisiennes avec la réjouissance de la mairie de Paris. C'était Anne Hidalgo qui avait décidé que l'égérie des JO 2024, Barbara Butch, eh bien, serait la représentante numéro 1 de ces nuits blanches. Elle est disque jockey, affichée lesbienne, hostile à la grossophobie et militante LGBT, bien sûr. Elle se complaît dans le sacrilège, dans le blasphème, donc il est logique que un 6-6-2026, jour de nuit blanche, cette obscénité qui a lieu tous les ans à Paris, eh bien elle aille avec ses troupes, avec ses équipes, faire quelques sacrilèges dans nos églises, de nombreuses églises. Nous en avons parlé mercredi dans le libre journal de la Résistance française avec nos invités, en particulier Alain Escada. Donc je le rappelle, il y a aujourd'hui cette cérémonie des Nuits Blanches annuelles, et où ils font particulièrement fort cette année. On aura essayé de protester protester contre les organisateurs, protester contre la mairie de Paris, contester vis-à-vis aussi de l'archevêché, hein, Monseigneur Ulrich. Eh bien, vous avez été nombreux à prendre d'assaut le standard de Ulrich, mais cela n'a rien fait, évidemment, dans une obséquiosité qui ne les honore pas, l'archevêché de Paris, eh bien, se soumet à l'idéologie LGBT et à la mairie de Paris. On ne peut pas en être réellement étonné après la misérable cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris avec l'archevêque, les évêques en tenue de Castelbajac. On comprenait pas exactement à quoi ça correspondait, mais en tout cas, ils étaient déjà soumis, ce sont des soumis, voilà. Et c'est malheureusement le fait depuis un moment déjà au sein de l'Église catholique et de l'archevêché et de la conférence des évêques en France. C'est dommage, c'est très dommage. Voilà, c'était le coup de gueule pour débuter cette émission, mais on va tout de suite maintenant continuer avec donc l'écrivain franco-syrien Anna Nazam, qui est en direct pour nous à Téhéran et qui va nous expliquer un petit peu la situation compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Anna, est-ce que vous pourriez déjà nous dire un petit peu l'atmosphère générale qui règne aujourd'hui? C'est un immense pays, hein, l'Iran, mais déjà dans la capitale à Téhéran peut-être.
Oui, absolument. Je veux commencer par une introduction philosophique. Dans la vie, il y a toujours un mot, une parole, une action, quelque chose qui nous fait réagir et qui nous fait prendre une décision de faire ou de ne pas faire des choses. Moi, il y a à peu près 3 mois, quand j'ai vu le missile Tomahawk s'abat sur l'école iranienne, c'est vrai que ça m'a bouleversé. Ça m'a arraché le cœur quand je voyais le corps des enfants complètement morcelé. Donc, je me suis dit, je vais absolument tout faire pour me rendre au lieu de ce drame, pour recueillir sur l'âme de ces enfants tués par un missile américain Tomahawk. Donc, après, on a suivi, comme toi, comme tout le monde, on a suivi la succession de cette guerre. On a suivi l'arrogance absurde de Donald Trump et de Netanyahou et leur déclaration de tous les 5 minutes, nous avons tué l'Iran, nous avons zigouillé l'armée iranienne, nous allons effacer de l'histoire ce pays. Et moi, à chaque fois, j'entends le Don Quichotte américain parler, je dis, mais c'est incroyable. Mais il ne se rend pas compte, il n'a aucune notion de la géographie. Comment on peut effacer avec un frappe de ciel un pays qui fait 1 600 000 kilomètres, et moi, je le connais absolument par cœur. Et je peux vous dire, je suis un spécialiste pour de vrai de ce pays, toutes ces confessions qui vivent à l'intérieur de l'Iran. Voilà, ça c'est donc pourquoi je suis venu en Iran. Déjà, comme je te l'avais dit auparavant, quand je suis arrivé à l'aéroport d'Erivan, dans la salle d'embarquement, j'ai regardé les Iraniens qui rentrent chez eux par avion. J'ai vu des gens visibles qui n'ont absolument rien d'anormal. Et quelques minutes plus tard, à l'aéroport de Khomeini, là, c'était la joie de voir un aéroport intact avec de magnifiques fresques sur le mur. Un aéroport qui fait probablement, j'ai calculé, 4 fois l'aéroport Charles de Gaulle. 4 fois l'aéroport Charles de Gaulle en superficie. Voilà. Donc, et après, on est rentré en Iran. En Iran, j'ai commencé par visiter tout ce qu'on avait entendu à la télévision en France, comme quoi ils étaient bombardés. J'ai commencé par l'hôpital Gandhi. C'est vrai que cet hôpital, il était totalement rasé. Et j'ai fait le tour du lieu. C'est un hôpital qui se trouve totalement, totalement en zone résidentielle. Il n'y a aucun signe pour dire qu'ici, à côté ou derrière ou devant, il y a une base militaire ou un centre de services de renseignement. Il n'y a absolument rien. Et je me suis engagé de te dire la vérité. Je ne suis pas en train de parler soutien idéologique à l'Iran. Je parle comme un Français qui se déplace en Iran pour voir la vérité, pour raconter ça à mes chers concitoyens français aujourd'hui en tant que candidat aux élections présidentielles. Donc, de l'hôpital Gandhi, je suis allé au musée de savants martyrs. Il y a plus de 600 savants martyrs tués, assassinés par Israël et par les Américains qui sont enterrés à ce lieu-là.
600, alors, pourquoi, 600 martyrs.
Si on pose la question,
donc, Adnan, 600 martyrs, c'est-à-dire des personnes qui ont été. Attends, juste une seconde. Des personnes qui ont été donc assassinées depuis le début des attaques israélo-américaines de cette année sur l'Iran, et donc souvent des savants en matière nucléaire.
Non, c'est depuis 1979 qu'ils ont commencé à tuer les savants iraniens.
D'accord. Voilà. Donc, ce sont des savants, des scientifiques. Des scientifiques.
Absolument. Tout ce qui touche à la recherche, on essaye de le zigouiller, de l'assassiner. Et ça s'est passé exactement à l'identique à Damas, dans le centre universitaire de recherche qui a été construit par la France, par Jacques Chirac, qui Dieu bénisse son âme. Israël l'a complètement rendu en cendres. Et j'avais un neveu qui a été tué dans ce centre de recherche à Damas. Donc, je reviens à Téhéran.
Oui.
Donc, voilà, ça, c'est la deuxième visite. Après, j'ai visité un synagogue au cœur de quartier résidentiel calme de l'Iran. C'est comme si tu visites, je ne sais pas, on va dire, à Borte-des-Fines, dans les quartiers qui sont derrière. Vraiment un endroit magnifique,
oui.
Plein d'arbres. Et quand j'ai discuté avec les personnes qui entrent reconstruire ce synagogue, et ils m'ont dit tout simplement, Monsieur Netanyahu, il était fâché après le rabbin qui a dit des mots contre la guerre. Voilà. Donc, imagine-toi, demain, tu te fâches après quelqu'un, tu vas l'envoyer à un missile, tout simplement pour le réduire en cendres. Voilà. Donc, des visites en visite, des visites en visite, mais la chose qui m'a marqué le plus à Téhéran, et ça, je pense que tout le monde veut savoir comment les gens y vivent au quotidien. Les choses qui m'a marqué le plus, c'est la place de la Révolution. C'est un énorme lieu, comme si on va dire place de la République à Paris. Et puis, de 8 heures du soir jusqu'à 2 heures du matin, des milliers de gens qui arrivent. Quand je dis des milliers, je n'exagère absolument pas. Des hommes, des femmes, des familles, tout ensemble, et ils arrivent avec de fleurs, avec de thé, avec de pâtisseries, avec le drapeau iranien. Chacun a un objectif. Ceux qui arrivent avec de thé et de pâtisserie, ils sont en train de distribuer ça pour que les gens leur disent « Dieu bénisse l'âme de votre martyr ». Donc, c'est une atmosphère de solidarité absolue. Alors, quand j'entends que M. Trump a dit « Nous avons distribué énormément d'argent et énormément des armes pour les rébellions », on comprend que les Iraniens, ils ont compris le jeu de Trump. C'était pas la démocratie ni la liberté des Iraniens. C'était vraiment pour occuper l'Iran, pour permettre à Israël, surtout à Netanyahou, c'est même pas Israël, pour permettre à Netanyahou de devenir le Shahenshah, le roi des rois de Proche-Orient, à lui tout seul. Donc, et là, je suis en train de parler à la fois philosophie, à la fois histoire, à la fois politique et à la fois mégalomanie personnelle de deux personnages de cette histoire, de Don Quichotte, Netanyahou et Donald Trump. Donc voilà, ça c'est la place de la révolution. Dernière chose qui m'a vraiment frappé pour la troisième fois que je visite l'Iran. Aujourd'hui, les femmes qui nous femmes en France pleurent leur sort, eh bien, je vis les femmes marchant dans la rue, la moitié des femmes qui marchent, je dis bien la moitié, hein, c'est pas le 49, les moitiés de femmes qui marchent dans la rue de Téhéran et ne portent pas de voile sur leur tête. Voilà. Donc, quand les féministes en France pleurent les femmes qui portent de voile, je voudrais les rassurer qu'ils puissent dormir tranquilles, parce qu'à mon avis, ça les empêche de dormir. Or, quand je fais des communiqués de presse et je dis qu'il y a des femmes en Syrie qui se font violer par les takfiristes que le monde occidental a installé en Syrie,
oui.
Là, ça ne fait ni chaud ni froid. Donc, quand, c'est à chaque fois, et là je reviens à l'aspect politologue, à chaque fois on va contrôler un pays en Orient, il faut trouver une faille. Soit l'arme chimique en Irak, soit l'arme chimique en Syrie, soit l'arme nucléaire en Iran, soit l'arme nucléaire et chimique et tout ça chez Kadhafi. Donc à chaque fois on veut mettre la main définitivement sur un pays, sur son pétrole, son gaz, sa richesse, et il faut bien qu'on le trouve quelque chose qui ne va pas. C'est comme quand on dit en France, celui qui va tuer son chien, il faut qu'on lui trouve...
On lui dit qu'il a la rage. Donc, on dit qu'il a la rage. Oui.
Voilà, absolument. Alors, moi, je préfère que Donald Trump et Netanyahu disent clairement qu'on voudrait contrôler l'Europe, on voudrait occuper totalement le Proche-Orient, avec toute sa richesse, là, j'accepte ça vraiment. Mais à chaque fois, on trouve un mensonge qui tient absolument plus la route. Ça, c'est pas. Voilà, donc, ça, c'est le 5 jours que j'ai passé à Téhéran. Après, j'ai pris l'avion à 300 kilomètres pour arriver dans une ville au centre de l'Iran. Et de là, on a pris une voiture pendant 8 heures de route pour faire donc 1300 kilomètres parce que l'aéroport de Bandar Abbas, qui se trouve en face, c'est-à-dire sur place de Doha d'Hormuz, il était totalement détruit et bombardé.
D'accord.
Donc, on a fait 1300 km d'arrivée de Téhéran, le quart de cette distance en avion et le trois quarts en voiture.
Bien.
Pour arriver à Bandar Abbas, pour mettre vraiment les pieds dans l'eau. Parce qu'en face, quand on est... J'ai quitté ce matin le Doha d'Hormuz. Oui. Donc là, on voit des centaines de navires, de marchandises, de pétrole, et peut-être, je ne peux pas certifier parce que je ne suis pas militaire, donc peut-être les appareils militaires, ils sont un peu plus en profondeur. Je ne veux pas qu'il y ait un général qui est en train d'écouter ton émission et qui dit « Monsieur Azam, il est en train de raconter n'importe quoi. » Donc, j'ai vu, en tout cas, l'eau, on voit presque pas l'eau. Il y a tellement des bateaux, des grosses, des petites, des moyens qui sont dans cette partie du monde. Et puis, à 80 km de Roi d'Hormoz, il se trouve le village de cette école, Minab,
oui.
L'école qui s'appelle Shajara Taïba, ça veut dire l'arbre de bonté. Et là, on a visité cette... j'ai mis plein d'images sur ma page Facebook, sur ma page YouTube.
Oui.
C'est, je veux dire, je ne pense pas que je vais réussir à trouver des mots qui correspondent à à ce drame. L'école, cher Nicolas,
oui.
Elle est totalement en dehors de village, en dehors de la ville. Elles l'ont construit il n'y a même pas une dizaine d'années pour que ce soit une école modèle pour les jeunes filles de 10 à 15 ans. Et donc, je certifie qu'il n'y a aucun, mais pas le moindre de bâtiment, ni de police, ni de guerre, ni de quoi que ce soit autour de cette école. Et l'école, elle est à 50 mètres de la mer.
Oui.
Donc, je veux dire, les Américains, avec leurs moyens technologiques, ils peuvent voir à l'intérieur de chaque classe qu'est-ce qu'il y a. Donc, ils l'ont balancé 3 missiles Tomahawk.
Oui.
Le premier missile a détruit une partie, et là, les gens commencent à arriver. Là, le deuxième missile arrive, c'est là où il y a le drame, parce que si, à mon avis, ils ont fait ça exprès.
C'est probablement, comme
on
souvent.
On fait le premier frappe, voilà, on fait la première frappe, les gens se ressemblent, et après, on donne le coup. Alors, pourquoi on a frappé cette école? Au premier jour de la guerre. Et c'est ça ce qu'on dit, on va frapper l'imagination, l'imaginaire des gens, parce qu'il faut mettre l'Iran tout de suite à genoux. On fait un frappe, on tue le président de ce pays ou le guide de ce
guide
pays.
Guide suprême, oui.
Avec une centaine de hauts responsables autour de lui. On tuait des enfants, là les Iraniens tout de suite, ils vont descendre dans la rue, selon bien sûr l'intelligence de Netanyahou et de Trump,
oui.
Ils vont descendre dans la rue et ils vont dire « Abat le régime » comme ils l'appellent. Donc malheureusement,
malheureusement pour eux, ça n'a pas réussi. Méthode,
ça n'a pas, absolument. Donc voilà, si tu veux, ce qui se passe ici. Alors maintenant, ce matin, on a repris la voiture et là, on est vraiment sur la route. Je me suis arrêté dans un petit village exprès pour pouvoir te parler par devoir d'information et par amitié pour Radio Courtoisie, que j'aime beaucoup, qui m'a toujours reçu depuis 10 années. Donc voilà, je suis maintenant vraiment à ta disposition. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je retourne à Téhéran, je passe 2 jours à Téhéran et après je reprends l'avion et je repars vers Erevan et de Erevan à Paris.
Moi, ce qui m'intéresse d'avoir te concernant comme témoignage, c'est déjà la force de caractère, la force d'âme de ce peuple iranien, parce que justement, ce que vit ce peuple, il y a eu d'abord des répressions, on peut pas le nier, dans un premier temps, et puis ensuite. Vous avez eu cette guerre. Aujourd'hui, nous sommes sur un cessez-le-feu précaire. Quel est le moral? Comment tu as dit qu'en arrivant, tu avais vu un peuple pacifique, mais est-ce que tu as un peuple qui est déterminé, qui est soudé derrière son gouvernement, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'espéraient les Israélo-Américains?
Tu sais, cher Nicolas, quand on fait le métier de l'information, qu'on soit modeste comme moi ou un grand journaliste comme toi, on a toujours l'envie de parler avec les gens. Et moi, en parlant avec les gens, j'ai même visité certaines familles qui m'ont reçu à cheval en 2019. Tu vois? Donc là, je me suis rendu compte qu'on ne peut absolument pas évincer ce peuple. Ils sont déterminés plus que jamais de tout faire et de tout mettre en œuvre pour gagner cette guerre. Et maintenant, si tu me demandes mon avis personnel à moi, je conseille à Donald Trump et Netanyahou de revoir leur position, de dire que un siècle de domination totale pour le monde, ça suffit. Aujourd'hui, il y a un pouvoir, une force qui émerge. Qu'il soit en Chine ou en Russie ou en Iran ou en Afrique du Sud ou en Brésil, ce qu'on appelle le Brex ou pas Brex, mais en tout cas, les États-Unis et ses sbires en Europe et au Proche-Orient, ils peuvent absolument plus jamais continuer à contrôler le monde. Le monde aujourd'hui, elle va être contrôlée par des pouvoirs collégiales, par plusieurs pays. Et ça sera beaucoup mieux pour la justice dans le monde, et ça sera beaucoup mieux pour surtout les peuples de ce monde. Parce que la gestion américaine, moi, je n'oublierai jamais comment il a fait Donald Trump avec le président de Venezuela, comment il l'a pris je veux dire, c'est incroyable, je veux dire, il n'y a pas de mots qui qualifient tout ça. Donc aujourd'hui, les Iraniens, d'après ce que je vois, et je ne suis pas en train de faire de la propagande, je donne des sentiments personnels. Ça n'engage que moi. Et ils seront absolument capables de mettre l'Amérique à genoux s'il va refaire des frappes contre l'Iran.
Oui, ça c'est votre analyse. Je rappelle en effet
Absolument.
qu'il n'y a aucune forme de propagande dans ce que vous dites. Vous essayez d'exprimer la vérité que vous avez vue. Et de toute façon, ça honore Radio Courtoisie que de pouvoir recevoir ce type de témoignage. Et il n'y a nullement à s'excuser. Et Radio Courtoisie a cette longue tradition. Il est vrai que chez certains, ne pas dire de mal de l'Iran, c'est être antisémite, c'est dire le raccourci, la réductio ad Hitlerum, qui est celle justement de la pire engeance des médias de grand chemin, dits médias mainstream. Mais nous assumons, en ce qui nous concerne, et dans ce libre journal de géopolitique profonde, et moi-même, dans l'ensemble des émissions que je dirige en tant que patron d'émission, je vous assure que j'assume totalement les propos d'Anna Nazam, pardon. Là, j'ai un message
Tu me
d'auditeur
permets,
que
cher Nicolas, tu me permets juste de
Juste
dire,
un
tu me
instant,
permets de dire un mot.
je finis juste ma phrase.
Oui,
Donc,
pardon.
j'ai un message d'auditeur qui concerne le 6 juin et les nuits blanches. J'y reviendrai, mais bien sûr, je te laisse t'exprimer comme tu le souhaites, mon cher Adnan.
Je m'excuse, j'étais
Je
un
t'en prie,
peu.
je t'en prie.
Quand tu as dit le mot antisémite, quand tu as dit le mot antisémite,
C'est parce
je veux
qu'on reçoit
dire,
des critiques, c'est pour ça.
bien sûr, absolument. Là, justement, ce soir, en arrivant en Iran, je vais rencontrer le député juif au Parlement iranien. Parce qu'il y a quand même un député, il y a une grande communauté juive à Téhéran. Et les juifs que j'ai rencontrés l'autre jour au synagogue, au bout d'une heure de discussion, on a bu du thé, ils m'ont pris dans les bras en disant « on est frères ». Et je veux dire, il n'y a pas d'antisémitisme. C'est complètement… Ça, c'est dans la tête de médias, dans la tête de M. Bernard-Henri Lévy, de M. Je ne veux pas dire toute la liste, mais ces gens qui utilisent justement, ils utilisent le juif comme un moyen d'arriver à leurs objectifs. Et il faut faire la différence entre le sionisme et le judaïsme. Ça n'a absolument rien à voir. Regarde qu'est-ce qu'il a fait Netanyahou il y a un mois et demi à peu près. Il a traité le juif marocain de singe. Et ils étaient absolument pas contents. Parce qu'il y a
bon,
une grosse communauté juive. Ben absolument. Donc, quand on voit la réaction d'un sioniste ashkénaze contre un juif oriental, je veux dire, il ne faut pas nous prendre toujours pour des stupides. Ça y est, on est dans le 21e siècle. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel intellectuel, surtout en France, il faut qu'on arrive à dire vraiment, réveillons-nous, on n'est pas des moutons. Il ne faut pas qu'on écoute, il faut pas qu'on avale le comprimé de LCI, de BFM et de tous ces médias qui nous font, qui mettent l'huile sur le feu. Je vis en France depuis 43 ans, je vois les Français aiment les Juifs. Et il faut pas raconter n'importe quoi. Il n'y a pas d'antisémitisme comme ça, comme le décrit Netanyahou et Bernard-Henri Lévy. Et ces gens-là, il faut qu'ils regardent bien avec un microscope leurs mains qui sont pleines de sang.
Donc, Annan, de toute façon, c'est très, tout à votre honneur de parler de ce député juif avec lequel vous échangez. Après, moi, j'ai absolument aucun complexe à dire du bien de l'Iran et je me contrefiche du parti Force Juive de M. Ben-Gvir, par exemple, qui a quelques affiliés et qui va venir nous insulter, qui a insulté TVL, qui insulte Radio Courtoisie. Ça ne me dérange pas. De même que j'ai pas besoin d'une association LGBT pour critiquer une autre association LGBT, je m'en fous. À vrai dire, ce que je dis, je l'assume totalement et j'assume totalement ce que vous dites. On est en train de parler de l'Iran, on en parle en bien parce que c'est un beau peuple et on sait comment a été ourdi, en effet, une logique qui est une logique de sionisme radical, extrémiste, qui est celui du gouvernement israélien et qui cherche par tous les moyens à intimider et à menacer. Mais moi, j'avoue que j'y suis totalement indifférent. J'ai même envie de dire que ça me fait rire. Donc, mais néanmoins, c'est bien que vous ayez...
J'aimerais tellement, Nicolas, que tu viens visiter ce pays magnifique.
Oui, bien sûr.
Juste quelques mots sociaux, ça n'a rien à voir avec la politique. Oublions complètement la politique. Quand tu arrives chez un Iranien, eh ben, tu rentres dans une maison à 90%, c'est des maisons magnifiques, propres, totalement propres, même les maisons pauvres, tu vois. On t'invite, on te dit, le premier mot qu'on te dit, je suis à ta service, à ton service. Et puis, il te donne du thé, il te donne la nourriture. C'est un peuple intelligent qui pense, qui réfléchit, je veux dire, il n'y a pas d'agressivité. Et moi, je suis vraiment, il y a le goût de l'élégance. Quand tu visites le grand bazar de Téhéran, tu as envie de passer des journées dans ce bazar, vraiment qui te donne la paix aux l'âme, dans l'âme. Donc, on n'est pas en train de faire de la propagande, on est en train d'écrire un pays. Pourquoi le détruire? C'est ça le chose.
C'est ça, pourquoi le détruire? Mais après avoir détruit d'autres pays, hein, tu as cité en effet l'Irak, tu as cité l'Afghanistan, tu as cité la Libye, tu as cité surtout la Syrie.
La Syrie.
Tu as cité la Syrie. Pour moi, la Syrie, c'est ce qu'il y a, c'est le plus grand scandale. C'est-à-dire, ça concerne même une partie de ma famille politique que j'appelle les droites attardées. C'est-à-dire, trouver le moyen de considérer que l'Iran est un pays d'islamistes, djihadistes dangereux au travers de leurs attentats, alors que c'est l'Occident, c'est Monsieur Macron, c'est les Européens, c'est Trump, c'est les Américains, c'est Netanyahou, l'extrême droite israélienne. italienne qui a installé au pouvoir, quelqu'un qui est un djihadiste, qui était fondateur d'Al-Nosra, dont on rappelle que Fabius, a dit que Al-Nosra faisait du bon boulot, c'est-à-dire les pires djihadistes, ceux qui voilent les femmes, qui les lapident. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'Occident qui a installé les gens de Daesh, les gens d'Al-Nosra, à la tête de la Syrie. C'est un fait indépassable.
Dans les groupes qui gouvernent aujourd'hui en Syrie, qui violent les femmes en permanent, il y a les Yégors qui l'ont ramené de la Chine, il y a des Turkménistan, il y a des Tchétchènes, il y a des Turcs, il y a tous les groupes salafistes, takfiristes d'Afrique du Nord et de Proche-Orient. Donc il n'y a pas qu'un seul, il y a vraiment une dizaine de groupes armés qui ont mis la main avec l'aide de la Turquie et d'Israël, des États-Unis et de Qatar sur la plus laïque de la région, la Syrie, qui a inventé il y a quelques milliers d'années la musique. Donc,
Tout à fait, Adnan. Écoutez, il est déjà, on a déjà passé une demi-heure ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de dire encore qu'est-ce que vous avez envie de témoigner? Moi, je laisse ce témoignage s'exprimer, qui est le vôtre.
Moi, je suis né dans une famille heureuse en Syrie, et je suis venu en France, c'est pas par désir de m'inscrire au chômage, au sécurité sociale. Je suis venu par les grands slogans de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Je suis venu pour discuter avec des intellectuels français. Depuis 43 ans, je l'ai fait. J'ai énormément d'amis en France. J'espère que la France retrouve son rôle. La France retrouve son message pour le monde et qu'il ne reste pas dans la poche de Donald Trump. Aujourd'hui, les Iraniens, et ils m'ont dit, parce que puisque vous êtes candidat aux élections présidentielles, faites venir les entreprises françaises, pour qu'elles travaillent. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Donc, essayons de s'ouvrir, essayons que la France agisse comme un adulte, pas comme un suiveur des Américains.
Voilà, je pense qu'en effet, les entreprises françaises seraient inspirées d'aller travailler, en effet, et de développer ce pays qu'est l'Iran, plutôt que comme les cimenteries Lafarge, qui ont d'ailleurs été punies par la loi, financer le djihadisme. Et ça, c'est une entreprise française qui l'a fait en Syrie. Hein. Ça aussi, on ne l'oublie pas.
Absolument, absolument. Voilà.
Il ne faut pas se tromper l'ennemi. Voilà. Il faut être clairvoyant. Un peu de clairvoyance, ça ne fait pas de mal. Merci beaucoup, Adnan, pour ce témoignage qui est important, on sent un témoignage qui vient du cœur.
Merci à toi.
Et ça, c'est très important. Un grand merci. Bonne continuation. Bon périple. Reviens-nous vite. Et puis, nous te réinviterons à l'occasion, justement, pour faire une synthèse de ce voyage que tu as fait en Iran. Merci à toi. Un grand merci. Alors,
bonne journée à vous.
Bonne journée, Adnan. Un auditeur, bonjour messieurs, chers amis, merci de le rappeler, The American Nightmare, oui, qui est en effet un cauchemar. Un pays fondé par des puritanistes calvinistes sur le génocide des Amérindiens. Tiens, en voilà encore un autre génocide, il n'y a pas que le génocide de la Shoah. Le pillage des ressources naturelles, l'importation d'une main-d'œuvre africaine esclavagisée, une industrie de guerre et une fausse monnaie papier sans contre-valeur or. Courtoisement, merci cher auditeur. Cet auditeur, cher Nicolas, 6 juin 2026, 666, qu'attendre des profanations de ce soir. Votre indicatif dit « Dies Ira, quel beau jour, alléluia ». Ce serait plutôt « Dies Irae, jour de colère ». Le Vatican vient de publier la lettre du père Gabriel Amorth, qui a été un gigantesque exorciste du Vatican, décédé il y a 10 ans et qui a annoncé en 2026 comme la pire année sataniste. C'est gay. G-A-I-G-A-Y. Bien courtoisement, merci, cher auditeur. Voilà. Bonjour, merci pour les informations, nous dit cet auditeur de ce monsieur syrien. qui est allé voir des familles d'Iran dont les enfants ont été tués, emprisonnés par les mollahs d'Iran. Alors, cher auditeur, en l'occurrence, là, Aminab, c'est un missile israélo-américain qui a tué 160 petites filles le premier jour de la guerre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faudrait mentir pour aller dans le sens d'une certaine idéologie. Je ne peux pas m'y résoudre, personnellement. Très bien. Eh bien, écoutez, on va continuer maintenant ce libre journal de Géopolitique Profonde. Je vous propose peut-être, voilà, elle me dit oui, elle a raison, Virginie, on va passer un très court bobino et on revient tout de suite après avec Vincent Pavant.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes toujours dans ce libre journal de Géopolitique Profonde. Et nous avons un nouvel invité maintenant avec nous, le philosophe, mathématicien, essayiste, auteur, Vincent Pavant, le président de Réinfo Liberté, un homme qui s'est particulièrement battu durant la gestion de la crise sanitaire pour dire non à la dictature, non au totalitarisme, non à l'expérience de transhumanisme qui s'est abattue sur notre pays. Eh bien, c'est Vincent Pavant. Bonjour, mon cher Vincent.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie pour cette émission et merci beaucoup de m'accueillir.
Alors, mon cher Vincent, je sais que vous êtes venu pour rendre hommage à une biostatisticienne qui a fait preuve de beaucoup, beaucoup de courage et qui malheureusement a disparu, a mis malheureusement fin à ses jours, mais après avoir vécu un véritable enfer sur le plan de la santé. Et ce, juste après avoir déposé plainte contre les autorités de santé et contre la vaccination Pfizer. Parce que, en tant que biostatisticienne, elle a, et c'est ce que vous allez nous expliquer, Vincent, constaté un certain nombre d'irrégularités qui, par rapport à la propagande, de tous vaccinés, tous protégés, c'est le titre de son livre, mais avec un point d'interrogation au bout, était en réalité non seulement le vaccin a été administré à des centaines de millions de personnes au travers le monde avec très peu de tests, il n'était pas admissible, il n'aurait pas dû être admissible en tant que tel sur le marché des médicaments, des vaccins, et elle a aussi dénoncé les très nombreux effets indésirables des injections anti-Covid. Elle était une femme courageuse et j'aimerais que vous en fassiez en effet un hommage, mon cher Vincent, dans cette émission et ce libre journal. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup, Nicolas, de nous permettre de rendre hommage donc, à Christine Cotton. Donc, je vais d'abord lire le message posthume qu'elle a laissé, hein, qu'elle voulait qu'on diffuse, et après donc je rappellerai tout ce qu'elle a fait et pourquoi son esprit justement doit continuer à vivre et à nous animer. Donc je lis son message qui est apparu donc sur le compte Twitter, son compte Twitter officiel, donc le 2 juin 2026. Je vous le dis. Nous sommes le 2 juin 2026. Quand vous lirez ces lignes, j'aurai quitté ce monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine Cotton. Je suis ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte. J'ai travaillé 25 ans pour l'industrie pharmaceutique dans la gestion et l'analyse des données cliniques. En tant que biostatisticienne, depuis décembre 2020, je me suis plongée dans les documents du vaccin Covid du laboratoire Pfizer. J'ai écrit de nombreux documents et fait de nombreuses émissions pour partager les vrais résultats. Les conclusions sont catastrophiques en plus de la non-validité des résultats dues à des erreurs, voire des fraudes manifestes. Le vaccin Pfizer que la population a reçu, que vous avez peut-être reçu, n'est pas celui de l'essai clinique aux 95% d'efficacité annoncé par tous les politiques, journalistes et médecins de plateau. On vous a administré un produit pour lequel il n'y avait strictement aucun résultat, ni d'efficacité, ni de tolérance. Ce message n'a pas pour but de faire du sensationnalisme sur les réseaux, mais pour vous informer de l'une des plus grosses manipulations que l'humanité ait connue. Toutes les preuves se trouvent dans la dernière version de mon travail que je vous invite à télécharger et à lire. Pour les plus feignants, elle est très occupée. Les quelques pages de la conclusion et les liens sur les docs sources vous éclaireront déjà beaucoup. Je suis tombé malade au moment où j'ai porté plainte contre les autorités de santé. Je souffre depuis plus d'un an de douleurs atroces, partant des lombaires jusque dans les jambes, de brûlures dans la peau, essentiellement dans les jambes et le dos. J'ai consulté des médecins généralistes, neurologues, ostéopathes, virologues, dermatologues, rhumatologues, psychiatres, homéopathes. J'ai avalé des milliers de gélules de compléments alimentaires, des anxiolytiques, des neuroleptiques, des antidouleurs prescrits par le centre antidouleur. J'ai même fait des séances de biorésonance et vu des magnétiseurs, et ce, sans aucun résultat. Je suis à bout de ce jeu peu supporté. Je demande pardon à ceux qui m'aiment, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux depuis 4 ans, mes amis, mes parents, et surtout à Dieu, ou quelle que soit sa nature ou son nom, de mettre fin à ma vie, moi qui n'ai eu de cesse de la protéger depuis l'enfance, que ce soit la vie végétale, animale ou même. Je remercie du fond du cœur ceux qui m'ont soutenu, encouragé, et tous ceux qui prient ou ont organisé des groupes de prière. Je vais vous demander de prier encore pour que mon âme soit au plus vite dans la lumière du Créateur. Voilà. Donc, message, vraiment, je dirais, à l'image de Christine, quelqu'un qui était une biostatisticienne extrêmement rigoureuse qui a fait une partie de ses études, je le signale, donc à Toulouse, dans donc la faculté des sciences économiques et statistiques. Toulouse, qui est un centre très réputé de mathématiques appliquées, où je suis moi-même passé, ainsi que, par exemple, Xavier Azalbert, et qui montre bien que Christine vient effectivement aux méthodes cliniques, d'essais cliniques, hein, comme elle le rappelle, mais par la porte de la rigueur mathématique, méthodologique et statistique, et c'est ce qui fait justement toute la force de son travail. Donc, comme elle le rappelle elle-même, elle a écrit de nombreux rapports très officiels en tant qu'experte, donc qui ont servi d'ailleurs à alimenter plusieurs plaintes. Et donc ces rapports, elle les a rendus, donc ils sont assez techniques bien sûr, qui sont très froids, comme peuvent l'être tous les gens qui mettent de la rigueur dans les essais cliniques. Eh bien, elle les a rendus accessibles, ces résultats, dans un livre donc que vous avez cité, Nicolas Stocker, donc tous vaccinés, tous protégés, point d'interrogation. Et bien sûr, la réponse à cette question se trouve dans le livre, puisque en réalité, comme elle le dit dans son message posthume, en fait, aucun résultat d'essai clinique ne permettait tout simplement de donner une AMM conditionnelle, donc au vaccin Pfizer. Christine Coton, donc, avait une très forte expérience de ce qu'on appelle les bonnes pratiques cliniques. Elle connaissait sur le bout des doigts tous les standards réglementaires, donc à la fois nationaux, européens et internationaux. Et donc, elle était bien sûr capable de décortiquer les protocoles et de montrer en quoi il respectait ou non ces bonnes pratiques, tous les biais qu'il pouvait y avoir dedans. Christine Coton ne travaillait qu'avec des rapports officiels, qu'avec des choses publiées par les fabricants eux-mêmes, par la littérature scientifique, par les autorités administratives. Et c'est à partir de ça, en fait, tout simplement, qu'elle a construit son analyse classique de ce qui s'est passé pour le Pfizer. Donc, elle met en évidence dans son livre, hein, et dans ses donc rapports, des biais méthodologiques atroces, des erreurs, des fraudes qui invalident et qui gonflent les résultats. Typiquement, sur les 95%, on sait très bien que en réalité, il n'y a pas eu de test PCR fait sur le groupe vacciné ou le groupe placebo qui aurait permis de savoir si oui ou non on avait vraiment le Covid. De nombreuses personnes ayant des symptômes tout à fait clairs avaient été écartées arbitrairement dans le groupe des vaccinés notamment. Elle a également travaillé, Christine Coton, sur les bases de données que sont Eudravigilance en Europe et le VAERS, donc aux États-Unis, qui répertorie donc les effets indésirables des vaccins notamment, où elle avait une note effrayante donc de CEC sur les statistiques. J'avais d'ailleurs échangé avec elle sur certains outils statistiques. Et donc, c'était quelqu'un de tout à fait strict au niveau de la méthode mathématique et scientifique. Mais c'était également quelqu'un de très humain, parce que elle n'oubliait pas que derrière tous ces chiffres, derrière toutes ces méthodes, derrière ces acronymes, derrière ces noms compliqués qu'utilise l'industrie pharmaceutique, il y avait des hommes. Il y avait des hommes qui souffraient des effets indésirables, donc qui se sont montés en association en France. On le sait typiquement avec Verity France, avec Où est mon cycle de Mélodie Ferron, avec AA Victime. Et donc, elle donne largement, justement, dans son livre, par souci de rigueur, justement, puisque le témoignage, effectivement, est une donnée tout à fait importante pour accéder au réel. Donc, elle donnait la parole à ces personnes donc victimes d'effets indésirables, et elle montrait évidemment de manière très claire que ces personnes étaient de toute façon empêchées quelque part de faire remonter leurs effets indésirables. Donc Christine s'en est allée, comme on le rappelle, donc via donc une aide à mourir, hein, ce qu'on appelle un suicide assisté en Suisse. Et je voudrais faire quelques commentaires pour essayer d'interpréter justement cette décision radicale de Christine, tout simplement dans un esprit qui est celui de ne jamais fuir la vérité, même si cette vérité doit être douloureuse. Christine, comme elle l'a rappelé dans son message, donc souffrait de douleurs essentiellement neurologiques, en fait, pour lesquelles elle ne comprenait pas, et la médecine ne comprenait pas l'origine, et de ce fait était manifestement en incapacité de soigner. Donc elle l'a dit, elle a vraiment essayer d'aller chercher toutes les causes possibles et imaginables de ces douleurs, y compris, pourquoi pas, des causes qui seraient purement psychiatriques. Dans tous les cas, toutes les hypothèses et tous les tests n'ont pas permis de mettre en évidence une origine certaine donc à ces douleurs. Et Christine en souffrait énormément. Donc, comme elle le dit, c'était atroce au point de devenir tellement insupportable que pour elle, la mort était préférable, et rationnellement préférable, cette mort, à une vie faite de douleurs insurmontables dont on ne connaissait pas l'origine et qu'on ne voulait pas soigner. Dit autrement, Christine, c'est quelqu'un qui ne sait pas raconter d'histoire. Elle ne sait pas, S'EST, elle ne sait pas, SAIT, raconter d'histoire. Et c'est quelqu'un qui regarde la vérité en face. Même si cette vérité est crue, même si cette vérité fait mal, même si cette vérité doit conduire à des actes radicaux, eh bien, Christine était prête à accepter à la fois la vérité et à en tirer les conséquences les plus cohérentes. Et au fond, ce qu'elle a fait avec elle-même, avec quelque chose qui a été sidérant pour beaucoup de monde, moi le premier, j'ai combattu, bien sûr, avec Christine, qu'on avait reçue aussi ici, et l'association Réinfo Liberté avait financé, donc en 2022, une plainte pour empoisonnement, dans laquelle Christine intervenait donc comme experte. Plainte, évidemment, qui a été classée et même écartée d'un revers de main dédaigneux par le parquet devant lequel on l'avait déposée. Mais donc, Christine, c'est quelqu'un qui regardait la vérité en face. Et cette vérité, donc, elle la construisait pas à pas, méthodiquement, en interrogeant toutes les hypothèses possibles et imaginables. Et à la fin, donc, comme je vous l'ai dit, elle prenait des décisions rationnelles. Comme elle l'a dit, elle a vu, elle, dans les données fournies par Pfizer, par les administrations, les autorités administratives, elle a vu qu'il y avait des fraudes, elle a vu qu'il y avait des biais, elle a vu qu'on ne pouvait pas annoncer publiquement 95% d'efficacité. Elle a vu effectivement que le process qui était mis en place pour donc diffuser à grande échelle le vaccin n'était pas celui qui avait été développé donc pour les essais cliniques. Eh bien, prenant acte rationnel de ses connaissances, elle avait décidé de porter plainte. La dernière plainte qu'elle a déposée, donc administrative, contre l'ANSM, n'était pas la première qu'elle déposait, bien sûr. Elle avait participé à des plaintes internationales, notamment au Québec, notamment en Australie. Elle avait, en France, déposé à la fois des plaintes pénales et administratives, donc, comme j'ai rappelé, une plainte pénale pour empoisonnement avec Réinfo Liberté, mais également une plainte pour administration de substances dangereuses avec maître Florence Bessy dans les années 2024-2025. Elle a toujours fait en sorte que ses plaintes soient complètement transparentes et les rendait accessibles. Et donc, elle a toujours été très cohérente par rapport aux ces découvertes qu'elle avait faites. Elle a été capable de les mener en justice, de les mener devant les médias, quel qu'en soit le coût. Elle a bien sûr elle-même été durement frappée par le combat qu'elle portait. Elle a perdu bien évidemment tous les contrats qu'elle avait avec l'industrie pharmaceutique. Elle a été durement attaquée par les médias, sur les réseaux sociaux, comme étant pourvoyeuse de fausses informations, de fake news, etc., etc. Comme on l'a tous vécu, elle a tenu bon et elle a fait preuve donc d'une grande résistance et d'une grande résilience morale vis-à-vis de ça. Ce qui l'a vraiment emporté, ce sont des douleurs neurologiques extrêmement violentes pour lesquelles elle ne voyait pas de solution. Donc, Christine nous rappelle quelque chose de très important dans son message et que je voudrais souligner parce que c'est quelque chose de tout à fait scandaleux et qui devrait conduire à mettre en prison énormément de monde, y compris les gens de Pfizer, y compris les autorités sanitaires mondiales et françaises, verront en tête, mais pas seulement, tout le conseil scientifique notamment. Donc cette information qu'elle rappelle, c'est le fait que les vaccins n'ont pas été produits dans les conditions pour lesquelles on a fait l'essai clinique. Donc ça, c'est très important parce que c'était quelque chose qui était connu, effectivement, de la part des autorités de santé. Ça avait été, notamment en Europe, révélé à travers les EMALX hein, par la journaliste indépendante anglaise Sonia Elia, qui avait révélé donc une série d'emails internes échangés à l'intérieur de l'EMA dans lesquels les autorités de santé remarquaient, grand 1, qu'effectivement, le process de fabrication à grande échelle n'était pas celui des essais cliniques, et grand 2, que ce process de fabrication à grande échelle posait des problèmes dans la qualité du produit et évidemment donc dans la sécurité du produit, sachant que, grand 1, il n'y avait pas assez d'ARN intègre dans ces produits à grande échelle, grand 2, qu'il y avait effectivement du coup des protéines fabriquées dont on ne savait absolument pas quels pouvaient être leurs effets, d'autant plus qu'elles n'avaient pas été testées dans les essais cliniques, et qu'il y avait des pollutions absolument inadmissibles, à la fois en termes de nanoparticules lipidiques, mais également d'ADN, vous le savez, il y avait de l'ADN résiduel donc dans le vaccin diffusé à grande échelle, qui était extrêmement dangereux, et qui contenait entre autres donc, ce qu'on appelle le fameux ADN oncogène du SV40, qui est sans doute à la base de très nombreux, on appelle turbocancers, puisque le généticien Kevin McKiernan donc, aux États-Unis a mis en évidence que dans des turbocancers, on retrouvait de la protéine spike vaccinale, en fait, et bien dans les cellules cancéreuses. Donc voilà, c'est tout ça que dénonce Christine Coton, et Christine Coton s'en est allée. Elle était croyante, on espère aujourd'hui qu'elle repose en paix dans un monde meilleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son esprit continue à vivre et doit continuer à vivre dans l'idée qu'il faut aborder les questions de manière extrêmement rigoureuse et qu'avec rigueur et méthode, on peut toujours parvenir à une vérité et que cette vérité, eh bien, il faut la diffuser coûte que coûte. La vérité est une petite voix, mais une voix en fait qui est essentielle parce que sans elle, effectivement, on sombre dans la folie. Christine Coton était une militante de la vérité méthodique, cet esprit si cartésien finalement qu'on a aujourd'hui en France et qu'il ne faudrait pas oublier. Elle l'incarnait à merveille, à la perfection. Et c'est comme ça que moi je voudrais lui rendre hommage. Christine était une grande scientifique, une grande personne intègre et rigoureuse. Et c'est comme ça qu'on doit lui survivre et diffuser son message. N'hésitez pas donc à aller acheter son livre « Tous vaccinés, tous protégés, point d'interrogation », qui est un livre de portée historique. Et j'espère bien que dans quelques années, quand des vrais et sérieux historiens se pencheront sur la période Covid, eh bien, ils puissent mettre en évidence ce livre de Christine Coton comme étant quelque chose, effectivement, eh bien, qui disait tout simplement la vérité, vérité qu'on n'a pas voulu entendre et même qu'on a voulu faire taire.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Vincent. Moi, j'ajouterais vraiment un élément lié au statut et à la fonction et à la profession de Christine Coton, biostatisticienne. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui a travaillé avec tous les grands laboratoires, qui était en mesure de regarder exactement cette littérature et l'ensemble de littérature scientifique et de voir un petit peu ce quels étaient les écrits des laboratoires, de pouvoir étudier les études qui étaient fournies en même temps pour justifier bien par exemple la mise sur le marché, la commercialisation d'un produit tel qu'un vaccin ARN messager Pfizer. Donc cette compétence extrême, et ça a dû être d'une grande violence en effet pour elle psychologique, qui explique peut-être aussi entre autres c'est la d'avoir cette précipité à un moment donné, enfin, la maladie l'a atteint, c'est-à-dire qu'elle a été contre finalement l'ensemble de cette communauté pour laquelle elle travaillait. Ça, c'est, je dirais que c'est tous ces gens très courageux, certains médecins qui se sont opposés et qui l'ont payé extrêmement cher parce que médecins et qu'ils avaient le conseil de l'ordre. Je dirais qu'il y a dans cette résistance un certain nombre de personnes qui ont un courage immense, qui n'ont pas hésité à aller contre l'ensemble de ceux avec qui ils avaient vécu, travaillé jusqu'à présent. Et ce courage immense, eh bien, des fois, il se paye. Il s'est payé très cher pour Christine Coton, mais il nous a permis de donner du poids à ce que nous disions, en particulier les journalistes qui n'avons pas l'expertise d'une Christine Cotton. Elle est venue justifier dans ce qu'elle a écrit, dans les plaintes qu'elle a déposées, justement la véracité, plutôt que de se faire accuser de complotisme. Christine Cotton, c'est quelqu'un qui a expliqué que entre les premières études sur le vaccin Pfizer et ce qui en réalité a été injecté aux patients, eh bien, ce n'est pas le même vaccin et que celui qui a été injecté a été testé sur à peu près 400 ou 500 personnes. Alors quand on ose nous dire, 435 je crois précisément, quand on ose nous dire que un protocole tel que celui du professeur Raoult n'a pas respecté totalement les consignes du double aveugle et autres, on se fout du monde. C'est-à-dire qu'on a injecté à des centaines de millions de personnes un produit qui avait été à peine testé sur certaines catégories de la population, pas testées du tout et sans qu'il ne soit relevé à aucun moment les effets indésirables. Je pense aux femmes enceintes, Vincent. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, de tout cela?
Oui, vous avez tout à fait raison de souligner. Donc, quand vous allez voir le CV de Christine Cotton, qui est toujours en ligne, vous voyez effectivement, comme vous l'avez rappelé, qu'elle a travaillé avec tous les plus grands laboratoires pharmaceutiques. Et donc, ce qui est très important chez Christine Cotton, c'est qu'elle a eu cette capacité de rendre accessibles des choses extrêmement techniques, touffues, et à peu près illisibles, parce qu'en plus, noyées dans des centaines de milliers de pages. Hein, je rappelle que le dossier Pfizer qui a été donné à la FDA faisait plusieurs centaines de milliers de pages et que Pfizer espérait le garder caché 75 ans. Voilà. Donc effectivement, comme je disais, Christine n'a rien inventé, entre guillemets. C'est pas quelqu'un qui était allé chercher des informations secrètes pour ensuite les diffuser, comme l'a fait Brooke Jackson avec l'affaire Vantavia, mais c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire, ce qui est de rendre accessible, de bien comprendre quels étaient les points importants justement de ces essais cliniques qui posaient des problèmes absolument monstrueux, à la fois sur le plan scientifique et moral, et qui les a rendus accessibles avec une plume particulièrement féroce, voire parfois satirique, et qu'elle a tout aussi bien rendu humaine en donnant la parole à tous ceux qui étaient... voilà. Donc c'est pour ça que c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement important. Comme vous le dites, elle a lutté contre les gens qui la nourrissaient, qui lui donnaient du travail avant, quand elle a vu qu'il y avait des dérives absolument insupportables, et elle l'a payé très cher à tous les sens du terme. Donc c'est vraiment, Christine Cotton, un exemple de travail, de ténacité dans le travail, de rigueur dans le travail, d'honnêteté dans le travail, quitte à devoir en perdre son statut. Comme vous l'avez très bien rappelé, Nicolas, énormément de médecins, de journalistes, de scientifiques, par peur de perdre leur statut, en fait, ont seulement propagé la doxa. Certains se sont même largement enrichis. Elle a tout perdu, quasiment. Elle avait des affaires qui marchaient très bien, parce que, comme on l'a compris, elle était extrêmement compétente. Bien sûr, elle était dans un système international dès le début. Elle avait vraiment une expertise internationale. Elle a tout perdu. Et donc, si vous voulez, c'est là où on doit aussi mesurer son courage. Comme je le disais, c'est quelqu'un qui regarde la vérité en face, qui agit de manière cohérente, quelles que doivent en être les conséquences. Et c'est ça qui est, pour moi, le message fondamental qu'elle nous donne. Et là, sa disparition tragique nous rappelle que jusqu'au bout, y compris pour elle-même, y compris lorsque la douleur devient insupportable, eh bien, elle reste dans cette position extrêmement rationnelle, rigoureuse, de regarder en face la vérité et d'en tirer les conséquences, même si ça doit coûter, eh bien, tout simplement, jusqu'à la vie.
Ah ben, merci beaucoup, Vincent Pavant, pour, je le redis, pour cet hommage à la biostatisticienne Christine Cotton, qui nous a quittés en début de semaine et qui a lutté avec une force et un courage absolument extraordinaire contre la dictature sanitaire que nous avons subie, qu'on nous a fait subir, qu'on a fait subir au monde à partir de 2020. Merci beaucoup, mon cher Vincent. On se retrouve, comme je crois que vous étiez d'ailleurs dans la matinale ce matin de Lara, Stam, et on se retrouve, nous, jeudi prochain pour une prochaine chronique. Vincent Pavant, le président de Réinfo Liberté, étant chroniqueur permanent dans les matinales du jeudi matin sur Géopolitique Profonde. Merci beaucoup, mon cher Vincent, et bonne journée à vous.
Merci, et bonne journée à tous les auditeurs de Radio Courtoisie.
Bonne fin de semaine, merci Vincent. Très bien, chers auditeurs, je vois qu'il y a des questions. Vous avez continué à réagir à la première partie d'émission telle que cet auditeur, alors là, qui a raison de me reprocher de parler comme Macron, s'il vous plaît, ne dites pas « j'assume comme Macron et les autres », dites « je partage », je prends la responsabilité, j'approuve, je soutiens, par exemple, j'assume, pour ces gens, c'est nous dire « je vous fais un mauvais coup et j'en suis fier ». Cela dit très amicalement, cet auditeur a raison. Eh bien donc, je m'en excuse et je n'assume pas. Si, je partage totalement votre analyse. Et je ferai attention la prochaine fois, en effet, ne pas utiliser ce mot qui ne... Vous avez parfaitement raison, lorsque Macron dit « j'assume », et il le dit tout le temps, ils le disent tous ces politicards du gouvernement, là encore dernièrement avec la petite Liana et Darmanin, qui assument, ils assument, non, ils ne devraient pas assumer, il faudrait qu'ils disent la, il faudrait au contraire dire, eh bien, je partage, ils devraient surtout dire, je prends la responsabilité. Et qui dit responsabilité, même s'ils se disent responsables mais pas coupables, aujourd'hui on le sait, ça doit être ça que fait Darmanin concernant la petite Liana et le dysfonctionnement incroyable de la gendarmerie comme de la justice, comme des parquetiers, dans cette triste et terrible affaire. Merci à Patrice qui continue à m'apporter des messages. Un de mes amis chrétiens, nous dit cet auditeur par standard, a combattu en Syrie du côté du Hezbollah et des Russes contre Daesh et l'EI et l'État islamique. Merci de ce témoignage, cher auditeur, qui dit tout et qui, j'espère, clouera le bec une fois pour toutes. À ceux qui pensent encore que l'Occident lutte contre le djihadisme, que l'Amérique et Israël luttent contre le djihadisme, et que la France de Hollande, de Macron, lutte contre le djihadisme, bien sûr que non. Je répète ce message de cet auditeur qui parle d'or, un de mes amis chrétiens, d'accord, a combattu en Syrie du côté du Hezbollah et des Russes contre Daesh et l'État islamique. D'accord ? Merci, cher auditeur. Un autre auditeur, magnifique témoignage sur l'Iran, mais en tant qu'hispanique, s'il vous plaît, ne pas comparer les deux hommes politiques responsables de ce qui se passe, donc Netanyahou et Trump, à Don Quichotte, rien à voir. Ben oui, bien sûr, c'est un le Don Quichotte de Cervantes. Et oui, ce n'est pas, c'est un héros quelque part, ce Don Quichotte. C'est une belle figure, ce qui n'est pas le cas, surtout pas celle de Netanyahou. Voilà, donc bien noté, cher auditeur. Voilà. Autre auditeur, que les Français n'oublient pas que les Américains ont débarqué le 6 juin 1944, 82e anniversaire, avec l'intention d'occuper la France. Gouvernement nommé, monnaie déjà imprimée, etc. On ne l'oublie pas, cher auditeur. Tiens, sur Christine Coton, un auditeur concernant Christine Coton, il faut espérer que l'autopsie exposera la vérité, RIP, courtoisement. Je ne sais pas s'il y aura une autopsie, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que Christine Coton est tombée malade juste après avoir déposé plainte. Bizarre. C'est quand même étrange, n'est-ce pas, ma chère Elisabeth ? Elisabeth, non accord.
Bizarre.
Alors, j'espère que vous allez bien, Elisabeth, je suis contente de vous retrouver.
Oui, ça va, en citoyenne... De base, oui, non, je vais bien. Enfin,
qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous a inspiré cette première heure d'émission ?
Alors, cette première heure, moi, je me dis que j'arrive un peu dans la dérision, là, après deux sujets si graves. Oui. L'Iran et le suicide de Christine, enfin, oui, le suicide de Christine Coton. Je voudrais dire deux choses, moi, sur l'Iran. J'ai une amie, elle se reconnaîtra, qui m'a mis, mais presque en relation avec vous, d'ailleurs, iranienne. Perse, qui parle un français merveilleux. Oui. Enfin, pour moi, voilà, c'est la Perse. C'est un pays civilisation.
Mais oui.
Comme la France, hein, d'ailleurs. On pourrait s'en sortir comme ça.
Vous avez parfaitement raison.
Et puis, bien sûr, la deuxième partie, en tant qu'ayant travaillé dans le marketing, pur et dur, plus dur que pur d'ailleurs, mais bon, chacun porte sa croix. Non, mais j'ai aimé aussi rencontrer des gens, enfin, c'était intéressant. J'ai eu affaire à des statisticiens, Et je sais à quel point les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi.
Ah bah bien sûr. Hein. C'est comme la torture. Hein. Bien torturer un chiffre, on lui fait dire tout ce qu'on veut.
Absolument.
Ce qu'on veut.
Et ça me rappelle le début du Covid, enfin le début même, quand on nous lancinait les chiffres, des chiffres dans l'absolu comme ça, sans pondération, sans relativiser. Hein, parce que quand on disait tant de morts aux États-Unis, oui, mais 350 millions, enfin, je ne sais plus combien de millions, mais enfin bon, ou 50, ne pas rappeler qu'il y a 50 millions de gens qui meurent par an sur la planète, et ce qui est un peu le cycle de la vie. Hein, oui. Donc, et c'est ça, les chiffres, il faut les aborder avec modération, et ce que n'ont pas fait les journalistes mainstream, enfin les journalistes grand chemin de l'époque. Quoi. Donc ça a participé de l'hystérie, de la peur, et de cette sensation d'être manipulée, de... Voilà.
C'est ça. Alors, Elisabeth, après les mazarinades d'il y a 3 semaines, je sais que vous nous revenez, parce que finalement, vous aviez eu peu de temps, et puis bah, on va peut-être prendre l'habitude un petit peu de vous avoir de temps en temps.
Là, c'est très nous aimable
aimons,
à vous.
Nous aimons, dans ces libres journaux, justement, donner la parole aussi à l'humour, et parce que justement, les sujets sont souvent dramatiques et tragiques même.
Et que l'humour est la politesse du désespoir.
Et voilà, comme le disait un certain Sigmund Freud, voyez. C'est exact. Vous nous revenez justement avec Michel Dumas le fait aussi très bien. J'attends d'ailleurs son quatrain qui ne devrait trop tarder. J'espère que Patrice me l'apportera d'ici peu. S'il est présent en tous les cas pour nous écouter, il fait de son mieux. Il était là mercredi d'ailleurs, notre Michel Dumas national. Donc, Elisabeth, vous avez un petit peu, vous faites un petit peu les mêmes mêmes professions de rimes, de grivoiserie.
De grivoiserie, paillardie, c'est
l'esprit français.
Voilà, on pourrait dire d'une grand-mère, c'est un peu osé, mais après tout, c'est le privilège de l'âge.
Voilà, vous avez, Elisabeth, le privilège de l'âge.
Mais alors, vous dites l'humour, moi j'irais plutôt dérision, parce que je ne me permets pas
d'être une carine. C'est un humour noir, même, parfois.
Oui, et puis moi, pour moi, l'humoriste, en ce moment, c'est Karine, par exemple, c'est Karine Dubernay. Bon, voilà, c'est... Moi, c'est seulement le point de vue d'une citoyenne qui prend un peu, qui capte les mots un peu comme à la surface de l'eau.
Ouais.
Moi, je comparerais tout ce qui se passe, c'est l'horreur, c'est la décomposition, c'est ce qui se trame, ce qui se dit en propagande. Vous nettoyez, vous faites le travail, vous nettoyez les écuries d'Augia merveilleusement. Enfin, bon, c'est compliqué, mais vous allez trouver, nous allons trouver le fleuve pour détourner, que Hercule détournait.
Voilà. Détourna le fleuve, oui,
absolument.
Tout à fait.
On va le trouver. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que les gens sont sur la rive, les citoyens de base, enfin nous, quoi. Et au fond, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas toutes ces étapes. Et ils voient l'écume. C'est ça. Et peut-être que des gens... comme moi, comme les humoristes, on peut peut-être participer de cette écume et de montrer les petites gouttes, les petites gouttes d'eau, les grains de sable, sable, eau, donc ça fait, c'est très bien, voilà.
Tout à fait.
Donc j'ai plusieurs pamphlets, je ne sais pas si vous me permettrez,
On va et puis on les commentera les uns après les autres,
voilà,
allez-y.
Vous les avez, oui, bon. Voilà, le traité de Lisbonne.
Sur le traité de Lisbonne, la forfaiture
de
Lisbonne.
C'est sur le UR, là, puisque j'insiste, et c'est les règles de la poésie, on est bien d'accord. Mais j'insiste, je répète toujours la même terminaison.
Oui.
Pour enfoncer le clou.
Bien sûr, allons-y.
Donc,
sur le
allons-y pour traité de Lisbonne, symbole de forfaiture, laisse les traces d'une indélébile blessure, bafouant démocratie et législature. Un référendum sacré vécu en parjure, une constitution française jetée en pâture, obéissant, ville à une superstructure. Piège dont nous devons subir les éclaboussures, les grosses éclaboussures, faisant des députés de simples garnitures, au service d'une commission et de ses dorures, pour masquer grosse corruption et fausse envergure, tout en imposant ses dangereuses piqûres. On en parlait. Et ce bellicisme, on en parlait aussi, comme une monstrueuse bavure. Des fonctionnaires aveuglés par leur boursouflure, des lobbies obsédés par leur ELEC voiture. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas, mais bon. Des chefaillons d'État tentant des épissures, hein, au sens d'assemblage plus ou moins de deux cordes. J'ai rajouté, alors qu'ils ne sont que des adultes immatures. Moi, j'aime bien les mots. Et hier, c'est M. Husson qui parlait justement d'adultes, hein, d'adultes immatures. Bon. Donc, alors qu'ils ne sont que des adultes immatures, quand leur hubris ne leur apporte que brûlure. Comment sortir d'une si terrible imposture qui ressemble à s'y méprendre, à une dictature, hein ? Du vieux continent n'est qu'une caricature, le bon vieux continent. Donc il faudrait éviter les conséquences d'une déconfiture, organiser une vraie et franche rupture en respectant une Europe aux larges embouchures de l'Europe,
hein, bien
de
sûr.
L'Atlantique et l'Oural,
exactement.
Sûr, où chaque État souverain conduise sa monture, restant vigilant avec de souples armures, hein, il ne s'agit pas d'être naïf. Hein. Et j'ai rajouté, parce que j'aime bien le colosse au pied d'argile, ou suicide du colosse par des doses de cyanure, ou détruit de l'intérieur par la vermoulure. Voilà. De ça, c'est mon image que j'ai maintenant de lieu. Je dis maintenant, je ne l'ai pas toujours eu. C'est ça qui, hein, moi, la subsidiarité, je me suis fait avoir un peu par tout ça aussi. En bonne cocu de gauche. voilà. Et le mot cocu, je sais que ça plaît pas.
Oh bah écoutez,
mais
oui, enfin, c'est
on s'en fiche,
ça vient
on
de coucou, fiche.
Mais
c'est ça.
Fait,
c'est
ça fait Molière, ça a un côté un peu, moi j'aime bien ce côté.
C'est un oiseau
coucou,
le
bien
coucou.
Bien sûr, hein. absolument. Puis il y a tellement différents types de cocu. Enfin.
Voilà. Oui, ça c'est certain.
Vous les deux.
On est presque tous le cocu de quelqu'un.
On est tous le cocu de quelqu'un, et le cocu fiant, voilà.
Oui, hein, oui, alors en plus, c'est comme le corrompu actif et passif, vous êtes à la fois cocu fier et cocu fier et cocu fier.
Absolument, c'est quel est le début,
Bon, donc, en tout cas, voilà, sur cette forfaiture de Lisbonne, c'est bien senti et bien envoyé,
oui,
je dirais.
Oui, je rejoins Maître Bruza, je rejoins aussi le chanteur, Vincent...
Le chanteur, bien sûr, Francis.
Francis Lalanne.
Oui, bien sûr.
Voilà, tout à fait, et qui mène un vrai combat, un combat juridique.
Oui, tout à fait.
Alors, est-ce que je peux me permettre d'en faire d'autres?
Ah bah, allez-y. Allez-y, pendant ce temps-là, on va vous écouter, d'accord. Je vais essayer de vous écouter et en même temps
alors,
de lire
si
les auditeurs.
Alors, même si c'est un peu vulgaire, hein, on est bien d'accord, j'assume pas, hein. Non, je partage,
vous prenez la responsabilité.
Absolument. Bien. Donc, c'est un pamphlet qui s'appelle « La conquête du pouvoir ».
La conquête. Aïe.
Pour les médias. Bah oui, je vous ai prévenu.
Commence bien grivoisement.
Pour les médias de grand chemin.
Oui.
Et si demain, on sortait de la tempête, empêcher cette guerre qui n'est pas blagounette, freiner comme on peut cette concurrence de caquette, exciter par cette télé, ces discours, j'en sais quelque chose, Marquette, faire taire ces médias soumis d'une pichenette, qu'ils tombent les masques et phares de vieilles coquettes, à moins qu'ils retournent leurs vestes, telles des girouettes, n'hésitant pas à trahir leurs marionnettes, tellement viles et cupides qu'ils ne les regrettent, sans un regard pour ces ex-vieilles chaussettes. Excusez-moi, c'est pour la rime. Hein. Ils sortiront pour leur nouvelle star les trompettes, car on le sait, se tiennent tous par la barbichette. Les rats quittent le navire par des pirouettes, mais apeurés par d'énormes trous dans la raquette. Face à une population sidérée, muette, paralysée par cette diabolique diète, soi-disant, consciente d'être victime de ce terrible, de cette terrible raquette, mais prenez garde, pour Ève jeter des cacahuètes. Forcez à l'exil le triste sire, le moulinette, et tirez sur vos sbires la chasse des toilettes. Excusez-moi. C'est vraiment excessif, hein, mais c'est l'humour, c'est le mauvais esprit, hein, j'ai jamais vu, on choque, on est fait pas.
Ah, mais de toute façon, c'est très bien comme ça,
c'est très bien comme ça.
Allez, voilà. un petit troisième
un
pour
petit
la route.
Un petit troisième, moi j'aime bien la combine et la cocaïne.
C'est alors cantine, la combine
et une la... comptine sur la combine et la cocaïne, et puis
et
vous
la
me laisserez deux après à faire. Après,
il faudra donner droit aussi aux auditeurs qui continuent à avoir des observations qui affluent, mais allez-y.
Bon, je divise. Quel mensonge la dangereuse hydrochloroquine quand des élites complices préfèrent la cocaïne qu'impunément elle se bourre dans les narines, qui les plonge dans l'incurie telle des vermines. au risque de faire courir au peuple. Là, c'est plus dur, la famine. Certains, beaucoup, s'en fichent, obsédés par leur in, avec des enfants, des soirées clandestines. Ça, c'est plus dur, dépassant en aurore les pratiques libertines et les scandales des balais roses et ballerines. Avec ces vers, pensez-vous, j'en fais des tartines ? Je refuse seulement qu'on me roule dans la farine. Je dénonce les manipulations sibyllines. Mais pour les eurogaga et nos bécassines, puisque je ne sais plus qui disait aussi bécassine hier, voyons bien sûr ces mots, c'est la faute à Poutine.
C'est là, bah de toute façon, c'est toujours la faute à Poutine, oui, tout à fait.
Voilà, bon, j'en aurai d'autres, mais ça sera
allez-y,
pour une prochaine fois.
Continuez.
Je peux continuer donc, sur un octosyllabe sur les US, arrogance ou bienveillance.
Sur les États-Unis.
C'est tout petit. Sur les États-Unis. Mais ça, c'est un octo, c'est 8. Hein. L'obèse puissance, ces US une énorme nuisance, du monde une protubérance, n'en sont que de la surbrillance, dégoulinante de suffisance. Jadis, on fait preuve de vaillance, ces migrants, ces courageux de la transhumance, ne sont aujourd'hui que vengeance pour les autres peuples et pour les autres peuples souffrance, ne font montre d'aucune tolérance, manipulent la transcendance. Religion, dollars et finances, connaîtront-ils une renaissance? Sans doute non. Trop d'inconsistance. Quant à nous, l'éternelle France, qui est marquée au fer rouge, enfin ça c'est, je rajoute, avec une nouvelle gouvernance, ne tirons pas sur l'ambulance, mais prenons notre indépendance, rejetons toute ressemblance, ne copions pas leur déchéance. Puisqu'on dit toujours que là, hein.
C'est très juste. Très juste voilà, sur les États-Unis, très juste aussi sur cette situation de colonisation dans laquelle nous entretenons finalement nous-mêmes.
Ouais,
tenez, je vais vous lire, si vous le voulez bien, Elisabeth, le quatrain de notre ami Michel Dumas, qui ramasse, qui toujours essaie de ramasser l'ensemble du... merci Patrice qui me donne encore des questions d'auditeur. Qu'est-ce que me dit cet auditeur? On verra après. Allez. Donc, Michel Dumas,
oui,
nous livre ce quatrain. De Téhéran à Kiev, fuse macaronade. Contre peuple, la guerre continue canonnade. Immole les veilleurs. Adieu les cotonnades, donc Christine Coton, oui. Gêneurs sont sacrifiés, empoisonnés monades.
C'est beau.
Oui, voilà, Christine Coton. Tous vaccinés, tous protégés, la lanceuse d'alerte biostatisticienne pour l'industrie pharmaceutique, la lanceuse d'alerte. Voilà, c'était en effet Christine Coton. Merci pour toutes vos émissions. Voudriez-vous dire, nous dit cet auditeur, aux autres auditeurs, que Christine Coton est notre Jeanne d'Arc du 21e siècle. Merci, merci. Merci bien courtoisement, nous dit cet auditeur.
Donc sacré, hein, côté personnage sacré.
Personnage sacré, exactement. Un autre auditeur, Natacha Ray, Christine Coton, Monsieur Marlex, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté, soit physiquement, soit socialement. C'est vrai, soit physiquement, soit socialement. Tous ces lanceurs d'alerte sont en grand danger. Excellent.
Financièrement aussi. Hein, financièrement.
Oui. Excellente émission, comme toujours. Oui, vous avez raison, financièrement aussi. Il y a encore quelques auditeurs, quelques remarques d'auditeurs. Il reste 5 minutes. Allez, un petit pamphlet.
Est-ce que Elisabeth, vous saviez sur l'Aurore Epstein? C'est pas tout à fait un pamphlet, c'est vraiment une
sur Epstein,
une
sur l'affaire et l'horreur et le système Epstein.
Donc je rappelle la citation: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Oui. Hein, donc c'est Epstein.
Non, Epstein. Oui, voilà. Que dites-vous, Epstein?
Aux fonctionnaires, pas, je ne parle pas des fonctionnaires.
C'est presque antisémite de dire Epstein.
Oh là là, mais je vais faire un truc sur l'antisémitisme, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. sur le isme. Aux fonctionnaires, mais quand je dis les fonctionnaires, ce n'est pas les gens de terrain, les instits, tous ces gens formidables. Hein, mais serviles proches du pouvoir, ceux qui sont proches du pouvoir, vous saviez. Aux attachés de presse, journalistes repus, vous saviez. Aux cupides banquiers et financiers, vous saviez. Aux membres carriéristes de la justice, car les membres carriéristes, hein, il y en a qui sont formidables, bien sûr, vous saviez. Aux chercheurs et scientifiques achetés, vous saviez. Aux conseillers de la cour, vous saviez. Aux politiques et pseudo-opposants de tous les partis, vous saviez. Aux collaborateurs collabos, vous saviez. À tous les taiseux, les muets, vous saviez. À tous les lâches, les peureux, vous saviez. Et nous savions, peut-être, nous tous. Hein. Et à ceux qui disent qu'est-ce qu'on pouvait faire, bah, je leur répondrai, déjà, ouvrir votre gueule. Voilà. Hein, voilà. Et puis moi, je voudrais terminer sur une petite note sur cette émission, je peux ?
Alors, 30 secondes, allez-y.
Alors, c'est un petit bout, c'est la grand-mère qui parle, la tendresse, là, pour une note vraiment. C'est un petit bout, puisque j'en ai plusieurs. Pour travailler sur le heurt. Oh. Vous transformez ma légendaire colère en heurt. Comme vos adorables mères ont soigné mon cœur, vous valez toutes les éphémères splendeurs. Et quand tranquillement arrivera mon heurt, après de passionnantes années au compteur, curieuse comme Essel, hein, qui disait à 80 ans, j'aborde la mort avec curiosité, de découvrir ces mystérieuses lueurs, je partirai avec des images de bonheur. Effaçant les pervers, et nous en avons autour de nous, hein, de mon collimateur, vous serez de ce monde les conciliateurs, les réparateurs, les constructeurs, les transmetteurs. Promettez-moi jamais d'aveugles consommateurs.
Merci beaucoup, Elisabeth Nonaccord. Voilà qui fera chaud au cœur à toutes les grands-mères. On nous reproche
note de tendresse,
de temps en temps d'être trop dur, d'avoir la dent un peu dure avec ce qu'on appelle les boomers et autres boomeuses. Eh bien, écoutez, voilà un joli petit message à toutes les grands-mères. Aujourd'hui, ça sera peut-être bientôt la fête des grands-mères, à moins qu'elle ait déjà eu lieu.
La fête des mères, c'était la semaine dernière.
La fête des grands-mères. Allez, il reste une minute. Chers auditeurs, qu'est-ce que nous dit cet auditeur ? Sur Crowdbunker, j'ai lu que le père de l'assassin présumé de Liana était un élu municipal qui aurait été décoré par un député socialiste. On est à peine surpris, cher auditeur. Un auditeur... c'est toujours le même auditeur. Pour l'Iran, je n'aimerais pas habiter ce pays dirigé par des mollahs. Bon. Écoutez, je donne droit, mon cher auditeur, à vos remarques. Vous avez le droit de le penser, hein, bien sûr. On reste justement, contrairement aux médias de grand chemin, chacun peut s'exprimer librement, tant qu'il n'est pas dans l'insulte. Voilà. Pourriez-vous dire un mot sur Henri Novak ? Alors Henri Novak, hein, vous savez qui c'est, Elisabeth ? Et Henri Novak,
c'est cet
Anglais mort. Petit peu le George Floyd blanc. Donc est-ce que c'est un live white matter ? En effet, c'est un scandale en Grande-Bretagne. Cette police britannique qui fait du racisme anti-blanc.
Alors qu'on parlait quand même des bobbies avant, hein, vous vous souvenez ?
Tout à fait. On termine cette émission, fantastique émission, nous dit cet auditeur. J'ai été très sensible à ce qui est arrivé et à ce qui est arrivé à Christine Coton. Je rappelle que l'Église catholique est opposée à l'euthanasie, mais aussi à l'acharnement thérapeutique. Tout à fait. Voilà, merci chers auditeurs. Je vais maintenant laisser la place à Mike Borowski et à ses invités qui est présent. Je rends l'antenne à notre chère Virginie. Je remercie encore Patrice ainsi que nos invités Adnan Azam, Vincent Pavant et Elisabeth Nonaccord pour cette excellente émission. Merci à tous et bonne journée.
Vous venez d'entendre Géopolitique profonde dirigée par Nicolas Stocker, diffusée en direct sur Radio Courtoisie le samedi 6 juin 2026 de 9h à 10h30 et réalisée par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.